Sur ce sentiment inconnu, dont l'ennui, la douceur m'obsède, j'hésite à imposer le nom,
désespoir.
Le beau nom grave de tristesse.
Vous vous rendez compte de votre état ?
La mélancolie.
Vous avez envie de guérir ou vous n'avez pas envie ?
Remède.
Ce que je veux avant tout, c'est que les gens se soignent.
À la mélancolie. Eva Bester.
Appelez-moi docteur.
Bienvenue dans cette émission préparée par Laure Grand Besançon et Camille Groc, réalisée par Eliane Girard et mise en musique par Muriel Pérez. Aujourd'hui à la technique, Pierre-Yves de Rolin. La gourmandise de ce matin est un élégant et drôlatique oiseau marin qu'on trouve principalement en Géorgie du Sud, le bien nommé albatros fuligineux, fuligineux signifiant qu'il a la couleur de la suie. Le volatile arbore un gracieux plumage clair-obscur et semble avoir été dessiné au fusain par le Caravage. Mais ce qui frappe le plus, c'est la cohabitation entre une tournure de dandy et un faciès de dessin animé. Son bec d'onyx paraît esquisser un sourire, tandis que ses yeux entourés de blanc l'anthropomorphisent curieusement. Allez voir sur internet, son air est plus cordial que celui de beaucoup de nos proches, c'est un oiseau à mettre sur un testament. Navigatrice, écrivain et vestale des terres et des mers, notre apothicaire de l'âme est la première femme à avoir accompli un tour du monde en solitaire au Bock Challenge de 1991. Avant ses multiples résidences au large, elle envisage brièvement une vocation religieuse et s'engage dès le lycée dans des mouvements d'extrême gauche. Elle obtient un diplôme d'ingénieur agronome spécialisé en halieutique, c'est-à-dire ce qui concerne la pêche, à l'École nationale supérieure agronomique de Rennes, travaille pour le comité régional des pêches de Bretagne, puis dans la recherche à La Rochelle avant d'y enseignée à l'école maritime. Élue marin de l'année en 95 par la Fédération mondiale de voile, la suractive continue de tendre vers l'absolu et effectuera 12 ans de course au large, dont 4 tours du monde en solitaire. Membre du corps des écrivains de marine et présidente de WWF France, notre apothicaire continue de naviguer, de s'engager, d'écrire et de s'émerveiller. Dans une interview, elle a prononcé une phrase qui, si l'on y adhère, est sans doute l'une des meilleures armes qui soit contre la mélancolie. « J'ai peu de soucis de moi-même ». Bonjour Isabelle Autissier.
Bonjour.
Isabelle Autissier, vous qui dites dans des interviews avoir construit votre vie sur des rêves et vous émerveillez chaque matin en vous disant que vous avez une chance incroyable, quel est votre rapport à la mélancolie et surtout y a-t-il une mélancolie différente à terre et en mer ?
Alors, mon rapport est assez lointain avec la mélancolie. Je suis assez peu mélancolique. J'oserais dire que j'ai pas beaucoup de temps pour ça. En tout cas, il y a tellement de choses qui me passionnent, que j'aime, qui m'intriguent ou qui m'agacent, que ça suffit déjà pas mal à m'occuper. Alors, oui, il peut y avoir un rapport un peu différent pour la simple raison qu'en général, en mer, on se pose un peu plus. On est moins dans ce tourbillon permanent et voilà, on est plus retiré en quelque sorte. Un petit peu retiré du monde. Et ça peut porter, peut-être pas à la mélancolie, mais en tout cas, une forme de réflexion, de contemplation. Oui, peut-être un peu teinté de mélancolie de temps en temps, parce qu'on se dit aussi que ce qu'on voit est unique et éphémère.
Mais vous n'avez jamais d'accès de tristesse en étant seule au large, Isabelle Autissier ?
Ah ben c'est génial, mais allez-y, je vous en prie.
Moi, ça
alors,
m'intéresse.
Faites-le de votre plein gré et par choix, parce qu'évidemment la solitude est une horreur quand elle est imposée à qui que ce soit, mais c'est un bienfait incroyable quand vous décidez d'aller passer 2 heures, 2 jours, 2 mois ou peut-être 2 ans seule, parce que vous l'avez décidé. Auquel cas, c'est une richesse justement de recul sur les choses, la vie, les gens, sur soi-même. C'est une richesse d'exploration. Hein. On voit jusqu'où on va, jusqu'où on sait, jusqu'où on a peur ou pas. Voilà. Donc c'est plein de richesses en fait. Et on revient. Enfin moi j'en suis toujours revenue en me disant que finalement j'adorais les gens.
Oui, j'ai lu dans une interview, Isabelle Autissier, que ça vous rapprochait des gens lorsque vous étiez au large, toute
ben
seule.
Oui, parce que vous savez, souvent on vous dit, quand vous revenez d'un tour du monde en solitaire, alors qu'est-ce qui vous a le plus manqué ? Ben je dis, c'est vous. Au fond, l'être humain est quand même un être éminemment social et sociable. Moi, je crois que je le suis pas mal, les deux. Et puis, comme je fais une activité qui est très forte, personnellement, qui est très impliquée, impliquante, du coup, j'ai l'impression d'être énormément moi-même, si je puis dire. Et donc mes rapports avec les autres deviennent d'une simplicité, d'une franchise, d'une force qui fait que oui, ça me rapproche des gens.
Être à sa place, c'est quelque chose d'assez rare finalement.
C'est assez rare. Je pense qu'on cherche tous ça parce que être à sa place, c'est une forme d'équilibre. C'est des petits moments. Hein. On n'est jamais à sa place très longtemps finalement. Mais en mer, il y a des moments où on est à sa place. Et alors là, quel bonheur.
On va revenir évidemment à la mer. Isabelle Autissier, j'annonce le sommaire aux auditeurs. Vous allez convoquer dans quelques instants Mozart, Jacques Villeray, L'incertitude du pire, Jacques Higelin, L'Odyssée de l'endurance, Le jardinage, Des îles, La navigation, Chagall, L'engagement et Un chat solitaire, juste après La plage de Vanessa Paradis. Remède à la mélancolie sur France Inter en compagnie d'Isabelle Autissier.
Ah, mais elle est rentrée.
François Pignon, Marlène.
Marlène?
Qui avez-vous viré tout à l'heure, Pignon?
Marlène?
Comment?
Elle est là, Marlène, devant vous. Qui avez-vous viré? Toi, si c'est pour rigoler, tu peux rentrer chez toi.
Excuse-moi.
C'est une femme blonde avec un imper beige que vous avez foutu dehors?
Vous me dites, l'autre folle va rappliquer, l'autre folle va rappliquer. Moi, je vois arriver une femme, je me dis, c'est elle, c'est la folingue.
Mais de qui il parle, là?
Qu'est-ce que vous lui avez dit exactement?
À qui?
À ma femme!
Rien.
Elle revient à la maison, vous lui parlez 5 minutes et elle repart en courant. Qu'est-ce que vous lui avez dit?
Je croyais que c'était l'autre hystérique, je vous dis. J'ai pensé, elle a trouvé quelqu'un pour garder les chiens et maintenant, elle vient foutre la pagaille, cette nymphomane.
Mais de qui il parle, là?
Classique de 1998, Le Dîner de Conte, Francis Weber, adaptation de la pièce homonyme. Isabelle Autissier, j'imagine que vous l'avez vu plusieurs fois. Est-ce que vous pouvez rappeler brièvement ce dont il s'agit?
Ah ouais, non, c'est j'adore. Et ça me fait autant rire, là j'en riais toute seule encore. En gros, c'est des gens qui sont assez... C'est des méchants bobos, hein.
Ouais. Oui, on peut le dire
qui,
comme
voilà,
ça.
Voilà, on peut dire ça comme ça. Qui ont fait comme pari d'inviter régulièrement un abruti pour s'en moquer. Et ils trouvent un brave type dont le job, la passion, c'est de construire des trucs invraisemblables en allumettes.
Jacques Villeray.
Voilà, et Jacques Villeray qui est magnifique dans ce rôle, parce qu'en fait, au fond, il est pas con du tout. Il est un peu comme ça. Il a des activités un peu bizarres, mais il a une incroyable sensibilité. Il y a des rebondissements qui sont absolument à hurler de rire. Les personnages sont vraiment tous incroyables, quoi. Et on rit beaucoup, on rit pas méchamment. Et en même temps, à la fin, il y a quand même un sacré fond sur justement le mépris, la méchanceté, l'indifférence, hein, toutes ces choses-là qui est quand même assez forte.
Oui, parce que c'est un film extrêmement bien écrit, vraiment, c'est toujours aussi drôle et c'est aussi cruel que drôle, c'est sur le mépris.
Oui, absolument, c'est sur le mépris.
Et dérangeant.
Dieu sait que ça existe partout. Et je sais pas, moi, c'est peut-être une des choses que je déteste le plus chez les gens, c'est les gens qui ont des aptitudes, ou en tout cas qui sont capables de mépriser les autres. Quoi. Ça me gêne pas qu'ils se détestent parfois, mais alors le mépris, ça pire que tout, quoi.
Et j'ai appris en préparant l'émission que les dîners de cons ont réellement existé à une époque chez Castel et chez les surréalistes.
Ah bon ?
Oui.
Ah bon ? Terrible.
Monseigneur, on voit que vous n'êtes pas marin. Pour nous autres, le plaisir, ce n'est pas de filer bêtement vent arrière, c'est de lutter au plus fin contre les souffles adverses, par le moyen de cette voile auxiliaire du gouvernail, jusqu'à ce que finalement, ils nous mènent, malgré eux, où nous voulons. C'est pour cela qu'on dit de notre père Ulysse qu'il était le plus rusé des mortels.
Laure Grand-Besançon lit un extrait de la pièce Le soulier de satin de Claudel, dont le sous-titre, emprunté à une pièce de Calderon, coïncide avec votre devise familiale, Isabelle Autissier. Le contraire de ce que prétend la loi de Murphy, le pire n'est pas toujours sûr. Est-ce que vous arrivez à en être convaincue ?
Ah ben, je l'ai expérimenté souvent. Et je trouve ça toujours aussi vrai. C'est-à-dire que des fois, on se retrouve dans des situations où on se dit, mais là, c'est plus possible, quoi. Là, c'est vraiment la cata totale. Je vais pas m'en tirer. Ça va être je vais mourir, en gros. Non. Finalement, non. Finalement, effectivement, le pire n'est pas toujours sûr. Et quand on a des choix et qu'on hésite, parce qu'on se dit ça va pas marcher, je vais me planter, etc. On fait pas, et c'est dommage. Et quand on fait, on s'aperçoit de la vérité de cette devise. Le pire n'est pas toujours sûr. Ça ne veut pas dire le pire n'arrive jamais. Ça veut dire qu'en tout cas, pour exister, il faut oser exister.
Et Isabelle Autissier, malgré tout, il faut l'envisager, ce pire, comme probabilité en mer. On doit s'attendre à tout.
Bien sûr. D'ailleurs, par exemple, en course au large, quand on va toute seule dans des coins un peu compliqués, comme les 40e, les 50e sud, en course, très vite, etc., c'est un devoir de, pendant 2 ans avant, avec son équipe, décortiquer toutes les horreurs possibles et imaginables, trouver des solutions, trouver des processus, se former, etc., pour faire face à tout ça. Pour soi-même, pour être en capacité de survivre, mais aussi pour ne pas être obligé de demander éventuellement l'assistance. Alors, si on le fait, c'est parce qu'on n'a pas le choix. Hein. Ça arrive en mer, on la demande ou on la donne, et c'est bien. Mais voilà, il faut quand même essayer d'être le plus autonome possible.
Ich steh ganz gegeben.
Und wo sei mein Herzensweibchen?
Mein Liebesweibchen,
L'air de Papageno et Papagena dans la flûte enchantée de Mozart, opéra joué en 1791 au théâtre de Vienne et interprété ici par le Chamber Orchestra of Europe sous la direction de Claudio Abbado. On entend le baryton Anno Müller-Brackmann et la soprano Julia Kléter. Isabelle Autissier, qu'est-ce que vous appréciez dans cet air ?
La joie, la simplicité, le bonheur, l'amour, une sexualité heureuse. Là, on les imagine, ils se retrouvent.
Ce sont les retrouvailles des amants.
Voilà, ce sont des amants heureux et en même temps, c'est joyeux, quoi. Ils s'amusent ça fait du bien.
Vous avez signé plusieurs spectacles musicaux, Isabelle Autissier, sur scène, notamment sur des musiques de Pascal Ducourtiou. Vous êtes vous-même musicienne, vous jouez de la flûte traversière.
Oui, alors je suis une toute petite et très mauvaise musicienne. Mais enfin, voilà, c'est pareil, ça m'amuse, j'aime bien ça. Et de temps en temps, si je suis avec ma sœur qui fait un petit peu de piano, on essaye de... Mais ça fait partie du bonheur des choses, hein. Même si on joue mal, ça fait plaisir.
J'ai lu que vous écoutiez de la musique sur les bateaux quand vous êtes toute seule au large. Vous écoutez Mozart, par exemple.
Entre autres, en fait, j'avais pris pour habitude, après le premier tour du monde, à partir du deuxième, de n'emmener à bord que ce que ma famille ou mes proches me donnaient pour que je les écoute, ces CD. Et donc, c'était un vrai lien, et c'était super. Par contre, c'était complètement éclectique, évidemment.
Du hard rock, Manu Dibango.
Voilà, il pouvait y avoir du hard rock, il pouvait y avoir du classique, il pouvait y avoir de la salsa, il pouvait y avoir tout ce qu'on veut. Et à chaque fois, c'était un petit moment avec quelqu'un.
Ça vous arrivait de danser ?
Ah oui, mais bien sûr, mais ça c'est génial. Quand on est toute seule en bateau, on peut crier, chanter aussi faut qu'on veut, on peut danser si on veut, on peut s'énerver, taper sur la coque parce que ça va pas, engueuler le bateau, insulter les nuages, oui, on peut vraiment faire ce qu'on veut, ça c'est top.
Être un être humain insupportable et donc soi-même, en fait.
Oui, enfin. Parce que en général, le bateau est un bon confident, il se met pas en colère, lui, il écoute gentiment, et puis finalement, on se calme parce que de toute façon, aussi, les nuages en font qu'à leur tête, et la mer en fait qu'à sa tête. Donc au bout d'un moment, on se dit « bon, bah, c'est peut-être pas la peine que je m'énerve de trop ».
Vous avez un autre antidote musical, Isabelle Autissier, c'est un chanteur que vous écoutiez aussi au large, c'est Jacques Higelin, et le morceau c'est « Tête en l'air », sorti en 79. Pourquoi juste avant qu'on l'écoute ?
Ah, oh, parce que c'est pareil, quelle joie de vivre, quelle...
Avec un désespoir, un peu. En sourdine.
Oui, mais il le transforme. C'est peut-être ça la résilience. C'est-à-dire que quand on l'écoute, moi ça me requinque. Moi, ça me donne vraiment envie de danser. Ça me donne envie d'aller descendre dans la rue et d'embrasser tout le monde. Voilà, ça. Je trouve qu'il y a une vraie bonté, en fait. Et c'est ce que j'aime chez Higelin, c'est qu'il y a une grande, grande bonté.
Alors, on l'écoute. Higelin, tête en l'air.
Chance un faux tour, d'un coup d'aile, d'un coup de bec, me rend aveugle et sourd. you, my lord.
Remède à la mélancolie sur France Inter en compagnie d'Isabelle Autissi, avec laquelle nous prenons de ce pas la direction de l'Antarctique. En 2014, à l'occasion d'une mission scientifique sur la barrière de Ross dans l'océan Austral, des scientifiques ont enfoui des moniteurs sismiques à 2 mètres de profondeur sous la banquise, et le géophysicien Julien Chapuis a accéléré l'enregistrement près de 1200 fois et a modifié la fréquence des infrasons. Et là, on entend l'intérieur de l'océan Austral. Isabelle Autissier, votre onguent littéraire, c'est l'Odyssée de l'endurance de l'explorateur britannique Ernest Shackleton, paru en 1919, un livre dans lequel l'auteur relate sa première tentative de traversée de l'Antarctique entre 1914 et 1917. Et ce qui est merveilleux, c'est que c'est un échec et une réussite, mais sur un autre plan, pas celui attendu.
Oui, c'est un échec sportif, puisqu'ils ne feront pas cette traversée. Le bateau va être broyé par la glace, par la banquise. Ils vont tous se retrouver, j'allais dire, à pied, en plein hiver, sur la glace. Et ce qui est merveilleux, c'est cette survie, c'est cet esprit qui va les lier. C'est Shackleton lui-même qui quand même garde tous ces hommes, j'allais dire, d'aplomb, debout, avec l'espoir. Et on dit qu'au moment où le bateau disparaît dans la glace sous leurs yeux, il leur dit, eh bien, maintenant, les garçons, nous rentrons à la maison. Enfin, alors que personne ne sait qu'ils sont là, que la radio n'existe pas, qu'on ne peut pas les retrouver, qu'ils n'ont rien, ils n'ont absolument plus rien, et ben voilà, on rentre à la maison. Et moi, je trouve ça formidable.
Mais oui, c'est formidable, et surtout, on a envie d'avoir un Shackleton dans sa vie, puisque c'est incroyable la force que communique cet homme, l'enthousiasme, le fait de ne jamais se décourager. À un moment, ils n'ont plus de vivres et ils se nourrissent uniquement de chair de phoque, ils boivent leur sang, c'est-à-dire que pour boire, ils ne boivent que du sang de phoque.
Vous savez, je pense que, alors ça, c'est une caractéristique de l'être humain, qui est capable de s'adapter à des choses absolument hallucinantes, et quand on voit ça de loin, on se dit, c'est pas possible. On en a eu des exemples pendant les guerres, des exemples tragiques, épouvantables. Et en même temps, on se dit, mais quelle résistance, mais quel mental, beaucoup de nos concitoyens, même encore aujourd'hui, il y a beaucoup de pays où vous pouvez aller voir, il y a des gens qui vivent dans des conditions, mais hallucinantes, quoi. Eh ben, ils sont capables de continuer, ils mettent un pied devant l'autre, et voilà, je trouve que c'est des leçons de vie magnifiques.
Et puis c'est ce mystère de l'élan vital de l'homme qui veut s'accrocher à la vie, quoi qu'il arrive, en fait.
Oui, et ça s'explique très mal, parce qu'il y a des gens qui, dans des conditions beaucoup moins difficiles, se laissent aller, se laissent mourir. Et puis, il y a des gens qui ont en eux cette espèce de force étrange et magnifique.
Isabelle Autissier, on va donc entendre une sorte de journal de bord grâce à vous de 3 années passées dans les régions les plus inhospitalières du monde. C'est l'Odyssée de l'endurance de Shackleton et on vous écoute.
Oui, déjà il faut dire que ça fait déjà 2 ans et demi qu'ils sont sur la glace, qu'ils n'ont rien à manger, qu'ils sont perdus et alors ils discutent entre eux. Un jour, un recensement fut fait de ce que chacun eût aimé manger s'il avait pu avoir à l'instant l'objet de ses désirs. À une seule exception près, tous désiraient un pudding à la graisse de bœuf, le d'œuf bien-aimé des marins. McLean seul réclamait beaucoup de brouillé, avec des toasts chauds et beurrés. Plusieurs votèrent pour un prodigieux Devonshire dumpling, une sorte de pudding. Et Wilde souhaitait un dumpling aussi long que large. Dans son petit livre de cuisine d'un penny, Marston lisait une recette chaque soir pour les faire durer. La recette était sérieusement discutée, des améliorations, des changements suggérés, puis chacun s'enfonçait dans son sac pour rêver à quelques repas merveilleux. Je reproduis la conversation suivante recueillie dans un journal. Wilde, aimez-vous les beignets ? McIlroy, assez. Wilde, c'est très facile à faire. Je les aime froids, avec un peu de confiture. McIlroy, pas mauvais. Que pensez-vous d'une énorme omelette ? Wilde, excellent, avec un geste convaincu. Eh ben, je trouve ça magnifique parce qu'il faut les imaginer. Il fait nuit, ils sont sur une petite plateforme que j'ai vue, moi, dans une île proche de l'Antarctique. Tout est gelé, il n'y a rien à manger. Ils sont à quelques mètres de l'eau dans leur chaloupe retournée. C'est leur seul havre, en fait. Ils sont entassés les uns sur les autres. Et alors, ils sont là, ils discutent comme s'ils étaient au restaurant quelque part à Londres, quoi. Et je trouve que, ben voilà, c'est beau, tout simplement.
Oui, d'ailleurs, il y a un moment où Shackleton s'étonne que ses coéquipiers disent au cuisinier, moi j'aime monter un peu plus fort. Ah non, moi je l'aime vraiment pas trop fort.
Voilà, ils sont capables de s'empoigner pour ça, et ça prouve en fait que ils sont déjà dans l'avenir, ils sont déjà dans l'espoir. ils s'imaginent déjà revenus à terre, et alors ils sont là en train de... C'est une façon de s'encourager les uns les autres, au fond, hein, à travers ça, ça paraît anodin de parler de cuisine, mais d'abord, ils ont faim, donc la nourriture, c'est hyper important, mais c'est toujours positivé, c'est-à-dire qu'ils sont pas en train de dire « j'ai faim, j'ai mal au ventre, je vais vomir, je sais pas quoi, c'est dégueulasse ce qu'on bouffe », ils sont voilà, en train de penser à demain, et demain est magnifique, et si on était tous comme ça, à penser que demain est magnifique, je pense que c'est un assez bon remède à la mélancolie.
Oui, et puis demain aurait peut-être plus de chances d'être magnifique.
Sûrement, parce que du coup, ça donne évidemment de l'énergie et du courage pour affronter des conditions. Si on se dit qu'elles sont passagères, bien sûr, ça aide.
Isabelle Autissier, en 2006, vous avez fait une expédition avec Eric Orsenna dans les mers du Sud sur les pas des grands explorateurs. Vous le racontez avec Orsenna dans Salut au Grand Sud et vous êtes allé sur les traces de Charcot et Shackleton aussi. Et Norge, je n'arriverai pas à le prononcer, Nordenskjöld.
Oui, merci. Voilà. Un Suédois. Et parce que c'est pareil, d'abord, c'était un peu pour s'amuser, pour tirer un fil, qui est celui des grands explorateurs. Et Eric a une belle phrase, il dit « les grands lieux suscitent de grandes personnes ». Et au fond, c'est ça, dans cette difficulté qu'est l'Antarctique, qui n'est pas humaine, c'est un endroit pour les humains, quoi. Finalement, ça a amené la plupart des gens qui y sont allés à donner le meilleur d'eux-mêmes et parfois même au-delà, à résister, je l'ai dit, à ces conditions incroyables et à être capable de solidarité et de dévouement, parfois jusqu'à la mort, les uns pour les autres. Donc une solidarité humaine que là aussi on aimerait voir un petit peu plus à l'œuvre sur le reste de la planète.
Justement là, Isabelle Autissier, vous avez dit parfois jusqu'à la mort. Et vous dites que lorsqu'on navigue, la mort n'est jamais loin, évidemment, mais qu'on n'a pas le temps d'avoir peur puisqu'on est trop occupé à survivre. Vous n'avez jamais été découragée en mer. Vous avez eu plusieurs déroutes.
Oui, j'ai eu plusieurs gros soucis, on va dire. Non, parce que d'abord, je l'ai choisi. Et donc ça fait tout. On m'a pas obligée à aller là-bas. Ça a même été très compliqué pour y aller. J'ai mis beaucoup d'énergie. Donc après, voilà. Moi, je trouve qu'on assume le bien, évidemment, et puis aussi parfois le moins bien. Et c'est comme ça, et c'est la vie, et c'est tant mieux. Et c'est ça aussi qui donne un peu de prix et de valeur à ce qu'on fait. Si c'était facile, s'il y avait qu'à prendre un bateau et partir faire le tour du monde, et qu'il n'y avait jamais peur, bobo, rien, ça aurait peut-être pas beaucoup de valeur. Donc moi, je vais pas chercher la difficulté, mais je me dis qu'il faut savoir l'accepter, parce que les bonheurs sont quand même très, très largement supérieurs.
Et la peur, vous êtes étrangère, Isabelle Autissier ?
Non, c'est pas... Alors, ça dépend ce qu'on appelle la peur. La panique totale, heureusement, non. Mais je pense parce que je navigue énormément depuis très très longtemps. Donc, je sais ce qui est dangereux, ce qui l'est pas. J'ai des solutions. Maintenant, il y a des moments où on est inquiète, très inquiète, où ça va mal, où il y a des moments où on sait que ça peut mal tourner carrément. Mais dans ces moments-là, il y a aussi, j'allais dire, l'autre partie du cerveau. Je sais pas si c'est la droite ou la gauche, qui en gros te dit tais-toi et bosse quoi. Et si tu veux survivre, bah vas-y survis là. Fais ce qu'il faut pour et puis on discutera après quoi un peu. Et ça, je trouve que c'est assez efficace parce que finalement, au fur et à mesure qu'on met un pied dans le combat et qu'on se tourne justement là aussi vers la suite, vers qu'est-ce qu'il faut faire, vers comment ça va se passer, on est dans le positif et quand on est dans le positif, on réagit mieux et donc on a plus de chances de survivre en fait. Donc tout ça est une sorte de d'entraînement et je trouve que au fond voilà on part de j'allais dire de zéro, un truc il faut le bateau est plein d'eau, faut prendre un seau et le vider parce que voilà parce qu'il faut pas qu'il y ait de l'eau dans le bateau et puis une fois qu'on a fait ça ça va mieux déjà et puis on peut envisager autre chose et puis voilà et comme disait Monsieur Dapalis, tant qu'on n'est pas mort c'est qu'on est encore vivant et donc qu'on peut continuer.
Partir sur un bateau tout blanc vers de nouveaux océans, en aller chercher au fil de l'eau des pays nouveaux. Partir avec le bien-aimé vers des déserts étoilés, en aller chercher au loin des jours le bonheur et l'amour.
Joséphine Baker, partir sur un bateau tout blanc pour illustrer l'activité qui vous grise, Isabelle Autissier, c'est évidemment la navigation. Et il y a quelque chose qui m'a amusée quand on lit votre parcours, c'est que vous découvrez la voile en Bretagne à l'âge de 6 ans. À 10 ans, avec votre père, vous faites déjà du calcul vectoriel sur les courants et des lectures de cartes.
Il fallait.
Et vous avez un premier mal de mer sur le voilier paternel et vous dites « Je refusais tout médicament parce que je pensais que c'était déchoir ».
Oui, mais ça c'est les enfants qui disent même pas mal, quoi. Hein qui se durcissent eux-mêmes. Et je me disais, parce que j'avais des grandes ambitions déjà petite, je me disais, mais plus tard, moi, je ferai des grands trucs. Si je commence à craquer maintenant, j'y arriverai jamais, quoi. Il y avait un côté comme ça, vous savez, comme les gens qui dorment sur leur balcon pour s'habituer au froid, quoi. C'était un peu ça. Donc, je me disais, bon, je suis malade, mais je serai pas malade toute ma vie. Puis de toute façon, si je veux partir faire le tour du monde, ou si je veux partir faire une grande navigation, il faudra que je m'en fiche, comme disent les gosses, quoi. Donc je m'appliquais à m'en fiche, et entre autres, dans ma recette personnelle, il y avait le fait de ne jamais admettre que j'étais malade, même si je vomissais, tripais boyau, et admettre d'être malade, c'était prendre un médicament, donc il fallait pas en prendre.
Vous dites aussi, Isabelle Autissier, mais ça rejoint un peu ce que vous évoquiez tout à l'heure, que les tours du monde en solitaire sont très violents, non seulement physiquement, mais aussi en termes d'usure mentale. On a l'impression, quand on vous entend, d'une forme de sagesse, c'est-à-dire d'accepter autant le et encore là, c'est un jugement de valeur, donc c'est pas bien, mais c'est presque nietzschéen, on accepte tout de l'existence.
Bah oui, moi j'ai alors c'est pas forcément parce que je suis philosophe, mais j'ai toujours eu cette façon de voir les choses. Je pense que sinon c'est pénible et fatigant. Et voilà, faut accepter le bon et le moins bon. Moi j'ai quand même une vie extraordinaire avec beaucoup de bons, donc je peux vraiment pas me plaindre. Et en même temps, bah voilà, quand il y a des trucs un peu moins bons, il y a toujours un moyen quand même d'en faire son miel d'une certaine manière. Mais pour en faire son miel, faut l'accepter. Faut accepter que c'est comme ça, que il y a des choses qui vont pas dans le sens. On n'est pas les rois de la piste, et donc ben voilà, s'il faut faire des détours parce que la ligne droite ça marche pas, ben peut-être que le détour va vous amener à regarder ailleurs.
On parle souvent d'une métaphore marine, justement, pour apprendre aux gens la sagesse. On leur dit toujours « ajuste la voile » pour s'adapter aux conditions. Vous l'avez vécu littéralement. Et donc, est-ce qu'on peut dire, Isabelle Autissier, que ce que vous avez appris en mer, vous l'appliquez sur terre ?
Bien sûr. J'ai appris plein de choses en mer. J'ai appris ça, entre autres. J'ai appris que j'étais un être de nature et que j'appartenais à la planète Terre, qu'on ferait mieux d'appeler planète mer, sans doute, mais peu importe. Voilà. J'ai appris que j'arrivais à faire ce que je voulais en mer uniquement à partir du moment où je tenais compte de cet environnement que je n'ai pas choisi, mais qui m'est offert. Alors c'est en l'occurrence un environnement physique quand c'est la mer et les nuages, ça peut être un environnement humain quand c'est un équipage, mais voilà, et justement ce qui est justement intéressant, c'est de faire avec, c'est pas d'être les rois de la piste, ça n'a aucun intérêt. Par contre, ben voilà, quand il faut juger, comprendre, adapter, essayer d'être intelligent si on peut, je trouve ça beaucoup plus passionnant.
C'est pareil lorsque vous faites du jardinage, Isabelle Autissier ?
Oui, alors ça c'est ma petite activité perso à La Rochelle, où j'ai un petit jardin dans lequel je mets les pieds tous les matins en buvant mon café. Et puis j'ai un jardin partagé avec des amis, juste à côté de La Rochelle, où on a nos arbres fruitiers, nos légumes et tout ça. Et ben oui, ben ça se passe pas toujours comme je veux. Là, cette année, les patates sont magnifiques, mais l'année dernière, c'était nul. Donc voilà, on essaye de comprendre les plantes, pourquoi ça marche, ça marche pas. Ça a un côté jeu, évidemment. Parce que moi, je peux toujours au pire aller au supermarché, acheter à manger. Mais j'aime bien aussi, voilà, le fait de, et ça oblige à être concentré sur ce qu'on fait. Voilà. Si je veux que mes légumes donnent bien, il faut que vraiment je m'y mette. J'essaie de comprendre les conditions, la plante, le climat, le sol, tout ça, qu'est-ce qu'il faut faire. Et du coup, je suis concentré sur ce que je fais et c'est beaucoup plus agréable que de s'en foutre complètement et d'avoir juste des plantes vertes qu'on a mis par hasard dans un pot, quoi.
Je pense qu'il faut être ni optimiste ni pessimiste, qu'il faut être tonique et qu'il faut ne pas abandonner, qu'il ne faut pas dételer. Nous avons quand même une cause très importante qui est la cause de notre société, de nos personnes, de nos vies, de l'humanité. Et dans cette cause-là, je pense qu'il faut essayer d'être toujours présent et de ne pas baisser les bras.
Edgar Morin en janvier 2012 pour introduire la citation qui vous appuie, Isabelle Autissier. Optimisme et pessimisme sont les deux faces d'une même chose qui s'appelle la démission. Il y a une autre version par Nicolas Hulot où il parle de résignation. Alors, comment l'entendez-vous cette citation ?
Tout simplement parce que moi, je passe mon temps à faire, en tant que présidente du WWF France, à faire des conférences aux quatre coins de la France, et à chaque fois, les gens ils me disent « Alors, c'est quoi ? C'est foutu ? Alors, vous êtes optimiste ou vous êtes pessimiste ?» Je leur dis « Mais moi, je suis ni l'un ni l'autre, j'en sais rien. Je sais pas si ça va mal finir ou bien finir, si on va s'en tirer un peu beaucoup. Mais je sais qu'il faut que je me battre et que c'est ça qui donne un sens. C'est ça qui me donne de la force et qui me donne de l'enthousiasme. C'est que je me bats. Et puis, après, on verra bien.
Alors, on verra bien. Dans un instant, en tout cas, on parlera d'un chat solitaire et de quelques îles. Le temps d'écouter un morceau de la playlist France Inter, Peace Life Vampire Weekend. Baby, I know pain is as natural as the rain. I just thought it didn't rain in California. Baby, I know love isn't what I thought it was. 'Cause I've never known love like this before. Oh. I've been cheating on, cheating on you. You've been cheating on me. But I've been cheating through this life. And all its suffering. Oh Christ. Am I good for nothing? But I've been cheating through this life. And all its suffering. I've been cheating on you. You've been cheating on me. But I've been cheating through this life. I've been cheating on me. I've been cheating on you. And all this suffering. Remède à la mélancolie sur France Inter avec Isabelle Autissier.
Hâtez-vous d'ouïr et d'entendre. Car ceci fut au temps où les bêtes apprivoisées étaient encore sauvages. Le chien était sauvage, et le cheval était sauvage, et la vache était sauvage. Et ils se promenaient par les chemins mouillés du bois sauvage, tous sauvages et solitairement. Mais le plus sauvage de tous était le chat. Il se promenait seul, et tout lieu se valait pour lui.
1960, le comédien Raymond Destaque dans l'adaptation par Muse d'Albret du récit de Rudyard Kipling paru en 1902, Le chat qui s'en va tout seul, qui donne son titre à l'un de vos tableaux remèdes, Isabelle Autissier, tableau du peintre et navigateur nantais Gildas Flao, qui a décoré l'un de vos voiliers, je crois.
Oui, c'est lui qui avait fait cette frise de fleurs bleues qui était absolument somptueuse sur un de mes bacs tout court. C'est un artiste de grand talent et un ami. Et pour me remercier, parce que je l'avais hébergé pendant un an, il m'a proposé de me faire un tableau et il m'a dit qu'est-ce que tu veux que je peigne. Et quand j'étais petite, on me racontait cette histoire et j'avais cette phrase dans la tête, je suis le chat qui s'en va tout seul et tout lieu se valent pour moi. C'est une phrase qui m'embarquait complètement. Et je lui dis, je veux voir le chat. Je veux que tu me peignes le chat. Et il m'a peint un chat absolument magnifique qui est sur une sorte de petite esquive comme ça. Il est debout sur ses pattes arrière, il regarde l'horizon et il barre avec une grande queue qui est négligemment posée sur la barre. Et tout ça dans un paysage un peu d'étoiles. Et ce chat est sublime et je l'ai tous les jours sous les yeux et je l'adore.
Ça, Isabelle Autissier, c'est votre choix maritime dans les œuvres picturales. Il y a un choix plus terrestre, mais non, plus aérien, puisque c'est la série de tableaux sur le cirque de Chagall. Il a fait 38 lithographies de gouache et des tableaux sur le thème du cirque. Ça flotte beaucoup, on joue du violon et on flotte.
Oui, et là aussi, il y a quand même toujours ce qui m'émeut beaucoup, c'est cette joie à travers les difficultés. Au fond, le cirque, c'est quand même dangereux. C'est quand même, voilà, on a tous les histoires des écuyères ou des cascadeurs qui tombent. Et lui, en fait, il n'en retient que cette explosion de couleurs, comme un rire d'enfant, un petit peu, il n'en retient que cette espèce d'activité un petit peu folle, qui est le cirque, comme quelque chose de très émouvant, quoi. Donc, j'aime bien à chaque fois que se rencontrent comme ça des choses un peu plus dures et des choses un peu plus joyeuses. Et je trouve que ce mélange-là, pour moi, il est très profond, il est très productif.
On va retourner dans un mélange de choses dur et douce cette fois-ci, puisqu'on va terminer avec vos endroits de prédilection autour du globe. Isabelle Autissier, vous avez choisi deux îles. La première, c'est l'île de Corvo, l'île du Corbeau, la plus petite île habitée de l'archipel des Açores au milieu de l'Atlantique. Une île volcanique au climat très humide et
ouais, venteux. Voilà. Alors on est bien paumé. L'île est un peu noire comme ça avec ses cailloux. Alors ce qu'il faut que vous fassiez, donc vous montez en haut de l'île. Donc il y a juste quelques petits champs comme ça et vous arrivez en haut et il y a un cratère volcanique. Donc tout ça est un peu sévère et au milieu du cratère il y a une petite île et sur l'île il y a un arbre. Et quand on voit ça, on a la chair de poule parce que c'est juste une espèce de cadeau incroyable de la nature. Et voilà. Et les Açores sont ces îles à la fois en plein, c'est souvent du mauvais temps, l'hiver, il y a des vents pas possibles, etc. Et en même temps, c'est plein de fleurs, c'est plein de choses comme ça, tout à fait tendres.
Ça résume votre conception du monde, Isabelle Autissier. Vous avez choisi aussi la Géorgie du Sud, à laquelle vous avez consacré un livre, Versant océan, l'île du bout du monde, écrit avec l'alpiniste Lionel Daudet, accompagné de photographies. C'est l'un des endroits de passage de Shackleton.
C'est l'endroit où il est enterré. C'est l'endroit où il est mort, en fait. Il est revenu sur cette île plusieurs années après ses expéditions et il est mort là, et c'est très bien. Et sa femme a dit, laissez-le là, c'est là qu'il est bien. Mais c'est une île très... Enfin, c'est un des rares endroits du monde où on a l'impression qu'on est comme avant, qu'il y ait les hommes, comme avant, voilà, comme le monde d'il y a 50 000 ans ou 500 000 ans, ce qui évidemment n'est pas tout à fait vrai, même pas du tout vrai. Mais en tout cas, ce qui est magnifique, c'est cette proximité avec les animaux sauvages qui n'ont pas peur de l'homme. Et ça, c'est exceptionnel. Partout dans le monde, les animaux savent que l'homme est dangereux et les animaux fuient l'homme. Mais pas en Géorgie du Sud, parce qu'ils sont totalement protégés. C'est une île totalement protégée. Et donc, si vous vous baladez pas en hurlant et en gesticulant, les manchots vont vous picorer les bottes, les mammifères marins vont à peine vous regarder passer, et ça, c'est quand même très rare.
C'est presque onirique ce que vous racontez, Isabelle Autissier. Il y a quelque chose d'autre qui est onirique, mais du côté de la terreur, quand on l'entend, et en même temps du sublime, c'est que la Géorgie du Sud, ça se trouve en plein 50e hurlant. Il y a les 40e rugissants, les 50e hurlants, et il y a ce proverbe marin, sous 40 degrés, il n'y a plus de loi, mais sous 50 degrés, il n'y a plus de Dieu.
Oui, alors ça, il faut le remettre dans l'histoire, où les bateaux étaient quand même pas des très très bons bateaux, il y avait énormément de naufrages, si vous regardez la carte des naufrages au Cap Horn, mais c'est juste hallucinant, quoi. Donc tous ces gens avaient peur, même les meilleurs marins, ils avaient peur quand ils allaient là-bas, et c'était un exploit. Alors, ça allait peut-être un petit peu moins maintenant, parce qu'on a des meilleurs bateaux, mais ça reste quand même des endroits avec des grosses vagues, des grosses mers, Et en même temps, des lumières, des choses qu'on voit que là, quoi, qui sont peut-être justement de l'ordre de la mélancolie parfois, parce que voir un iceberg comme ça tout seul, qui est en train de fondre finalement, qui va disparaître, ça a un petit côté mélancolique.
Alors on termine sur une boucle triste qui n'est pas vraiment bouclée, voilà, sur l'iceberg mélancolique. Merci beaucoup Isabelle Autissier d'être venue dans cette émission.
Merci Eva.
Votre dernier roman, Oublié Clara, vient de paraître chez Stock. Et je signale aussi votre participation à l'ouvrage collectif Mémoire de la mer paru chez Folio, dans lequel vous avez écrit le chapitre Jeanne Barret, passager clandestin du Bougainville, 1767, première femme autour du monde. Et moi, je parie que Oublié Clara va être adapté au cinéma, j'en suis sûre et certaine. Notons qu'on peut toujours écouter sur le site de France Inter les récits d'Isabelle Autissier, vos chroniques diffusées sur la chaîne chaque dimanche de 2011 à 2016. Chers auditeurs, la programmation musicale, les remèdes sont comme toujours sur le site de l'émission. J'espère que vous avez la même sérénité qu'un camembert apotropaïque. Je vous retrouve dimanche prochain à 10h.